Bonjour et bienvenue à nouveau sur Où donc habitez-vous, le podcast qui décloisonne l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine, le paysage et tout ce qui relève de l'aménagement du territoire, des territoires. Aujourd'hui, après les deux petites histoires d'introduction du précédent épisode, nous entrons dans le vif du sujet avec cette première partie intitulée « La mémoire au présent ». Alors, rappelez-vous, le précédent épisode introductif se terminait par cette interrogation de François Chauvet. Comment pourrait-on, parallèlement à la production d'équipements performants, normalisés, hors d'échelle et décontextualisés, réactualiser la compétence d'édifier un milieu différencié, contextualisé et articulé à l'échelle humaine? Il est un fait que partout dans le monde, nos métropoles, à la fois surdensifiées et puis tentaculaires, constituent des lieux de stress, de tension et de surconsommation et de pollution, et tout cela en augmentation exponentielle. Alors, en contrepartie, pour calmer le jeu, pour temporiser cette accélération du rythme métropolitain, que constate-t-on? On constate que l'attrait croissant pour la culture et pour les patrimoines culturels et naturels suit cette croissance exponentielle. Il n'y a pour s'en convaincre que de regarder l'augmentation des chiffres du tourisme culturel ces dernières décennies, l'attrait pour les voyages de culture de toutes sortes, l'intérêt croissant de toute une population pour les films documentaires historiques, les formations, les conférences, en gros pour les patrimoines au sens large. Les temps changent et les logiques aussi. Je me souviens des idées novatrices avancé par mon ami Jean-Bernard Viguetti, qui était ancien directeur de l'Office du tourisme de Rennes et qui a créé en 1975 le concept et l'association des petites cités de caractère de Bretagne. Petites cités de caractère devenues association nationale, dont il est aujourd'hui délégué national, comme moi-même. Jean-Bernard avait initié à Rennes en 1985, je crois, les premières assises européennes du tourisme urbain. Alors, nous étions loin à l'époque du succès qu'ont aujourd'hui des villes historiques et culturelles comme Prague, Lisbonne, Barcelone, Lyon ou Bordeaux, etc., dont les habitants sont même parfois excédés par le nombre et les débordements des visiteurs. À l'époque, rappelez-vous, le tourisme était principalement orienté sur le divertissement, la plage, la montagne, les monuments, et bien moins sur les cultures et les patrimoines que l'on peut qualifier de plus ordinaires. Par exemple, l'âme d'un lieu, la mémoire d'un site, l'histoire d'un quartier, la vie d'une place publique, etc. Alors pourquoi cette évolution? Que cherchent donc ces visiteurs aujourd'hui? Au-delà du loisir et du divertissement, je pense qu'en quête de patrimoine, ils recherchent la quiétude d'un monde repéré, harmonieux, parfois sublimé, il faut le reconnaître. Un monde ponctué de lieux d'histoire et de mémoire. Le citoyen, visiteur, y trouve ses marques et mesure ainsi les excès d'une course à la modernité dans laquelle il se sent souvent, comment dirais-je, délaissé, dépassé. Voilà. Les patrimoines culturels s'apparentent ainsi à une ressource. Une ressource permettant de pallier aux tensions du monde moderne. Une ressource sans cesse alimentée est devenue quasi inépuisable, tant la notion de patrimoine a été étendue ces dernières années. On peut parler d'extension du nombre et de la variété des éléments reconnus comme ayant une valeur patrimoniale. On peut parler aussi d'extension des périodes considérées, des plus anciennes aux plus récentes. Enfin, on peut parler d'extension du sujet sur des territoires aussi vastes que le Val-de-Loire, 280 km de long, le bassin minier du Nord, enfin, le bassin minier uni, les Causses et les Cévennes, tous les trois inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, etc., etc. Le succès est indéniable. Cependant, alors qu'elle tend à s'immiscer, cette notion de patrimoine, insidieusement dans les logiques locales d'aménagement, pourquoi n'est-elle que rarement considérée pleinement à sa juste valeur d'aujourd'hui dans les débats nationaux sur l'urbanisme, le développement durable, les territoires? Pourquoi ne demeure-t-elle considérée que comme une notion annexe, accessoire, secondaire, voire même négligeable? Si, comme évoqué dans l'introduction, il est inscrit dans le code de l'urbanisme que le territoire français est le patrimoine commun de la nation, n'apparaît-il pas opportun alors d'activer une fonction ressource matrimoniale pour une conduite durable de l'aménagement ? Pour une conduite durable de l'aménagement, ce peut être le titre de cet épisode. Bon, reprenons les idées avancées en les exprimant différemment et en les approfondissant. Plus le temps s'accélère, plus notre environnement se rationalise avec pour seule et unique perspective l'économie, plus, d'autre part, la notion de patrimoine culturel prend de place dans nos vies et dans nos territoires. C'est une simple question d'équilibre. Pour illustrer cet équilibre des fonctions, esquissons un parallèle entre la conduite de l'urbanisme et la conduite d'un véhicule, par exemple. Depuis le début des années 80, en France, l'urbanisme est de la responsabilité de la commune. Le maire et son conseil municipal ont pour mission de gérer et de faire évoluer l'aménagement dans le cadre de leur mandat. Pour conduire cette évolution, ils ont à leur disposition deux fonctions, qui sur un véhicule sont activées l'un par l'accélérateur et l'autre par le frein. En matière d'aménagement, l'accélération est le fruit d'une dynamique locale engendrée le plus souvent par un développement économique ou technologique. Le freinage est marqué par le contexte environnemental, l'intérêt pour les cultures locales, la qualité du cadre bâti et naturel, la préservation des patrimoines, qu'ils soient architecturaux, urbains, paysagers, matériels ou immatériels. C'est le jeu de ces fonctions qui doit permettre d'évoluer raisonnablement et durablement. L'aménagement des territoires, comme bien d'autres domaines, n'a-t-il pas besoin aujourd'hui plus que jamais de ces deux fonctions vitales et complémentaires ? Or, si on prolonge l'idée, il apparaît évident que si la conduite de l'aménagement sans accélérateur, c'est-à-dire sans progrès, tout comme celle d'un véhicule, ne mène pas très très loin, la conduite sans frein, c'est-à-dire sans fonction régulatrice, est elle le plus souvent meurtrière. Prenons un exemple. Il est toujours possible de construire des bolides capables de dépasser la vitesse du son. Mais la conscience du danger conduit bien entendu à interdire leur circulation dans nos villes et dans nos territoires habités. Il est aujourd'hui possible de construire des tours d'habitation de près d'un kilomètre de haut. Or, malgré les ruptures graves qu'elles engendrent dans le tissu urbain, tant au niveau social que culturel, elles font encore aujourd'hui la fierté de nombreuses villes de par le monde. Pour mémoire, voici une citation de Le Corbusier dans son projet pour une ville radieuse, projet de 1935. « Tout ce grouillement accroché jusqu'ici sur le sol comme une croûte aride, les quartiers anciens, est raclé, enlevé et remplacé par des cristaux purs de verre montant à 200 mètres de hauteur. Peut-on encore aujourd'hui adhérer à cette vision de la ville quand on sait les drames et les catastrophes sociales, sociétales, je dirais même humanitaires, qu'elle a engendrées ? Personne ne nie l'utilité du frein sur un véhicule. Alors pourquoi nier son utilité fonctionnelle dans la conduite de l'aménagement des territoires et l'imposer a posteriori comme un garde-fou sous forme de servitude rapportée mis en annexe des documents d'urbanisme ? Chacun sait qu'un freinage tardif est source d'accidents. Il est tout aussi absurde de penser pouvoir conduire dans certains territoires avec pour seule fonction l'accélérateur et dans d'autres le frein. Pourtant, l'usage n'a-t-il pas été longtemps et n'est-il pas encore de ne considérer le patrimoine que sous l'angle de sa protection et de l'enfermer dans des parcs et des musées, voire des secteurs sauvegardés et des zones de protection. En matière d'aménagement, l'accélérateur et le frein sont des fonctions capitales à coordonner dans la durée, de la conception à la gestion, pour prévenir et préserver des accidents de parcours. Cependant, il faut le reconnaître, l'exercice s'avère difficile, car le changement est difficile. D'autant plus qu'en France, la compétence en urbanisme est exercée au niveau local, alors que la protection du patrimoine l'est au niveau national. Sans pour autant minimiser le rôle de l'État, ne serait-il pas raisonnable de favoriser cette coordination au niveau local en encourageant les maires et les responsables de l'aménagement à fonder le programme d'élaboration des documents d'urbanisme, voire de tout projet d'aménagement, sur une connaissance approfondie du contexte culturel et environnemental ? Mais bon, il faut bien se rendre à l'évidence, l'équilibre entre l'accélération et le freinage reste difficile à trouver, d'autant plus difficile que dans la conscience collective actuelle, l'un figure une évolution positive, alors que l'autre figure une régression négative. Beaucoup croient encore que l'on conduit, que l'un conduit vers le progrès et l'autre vers le déclin. Peu font le lien entre la recherche de cet équilibre et les évolutions environnementales et climatiques en cours. Je reviendrai sur le sujet dans un prochain podcast intitulé Culture et climat. Si l'évolution de nos sociétés demeure positive, ce que personne, mais personne ne nie, bien au contraire, c'est la vitesse, elle, pose problème. La vitesse, l'accélération creuse les écarts. Cette logique s'applique dans tous les domaines, dont bien entendu celui qui nous intéresse. Plus l'accélération du temps est forte, violente, brutale, plus le freinage sera fort, violent et brutal, pour tenter de garder un équilibre. Face à ces accélérations, et pour s'en défendre, des protections larges et strictes des patrimoines, à divers titres, sont revendiquées. Les conservatismes les plus extrêmes activent un freinage intempestif, incontrôlé et souvent violent. Or, rechercher l'équilibre entre les extrêmes est un exercice difficile, dangereux et suscitant de fortes tensions. Si les tensions engendrées s'aggravent, l'accident est proche. Les conséquences sociales dramatiques des premières accélérations qui marquèrent en France les décennies d'après-guerre, notamment en périphérie des grandes villes, sont sans commune mesure avec celles qui pourraient advenir à l'échelle de la planète. Il devient donc urgent aujourd'hui de temporiser la conduite de l'aménagement pour retrouver un équilibre plus stable, plus supportable, plus soutenable, Sustainable Development, c'est soutenable, pour les habitants et les territoires considérés. Mais alors, comment faire ? Ne faudrait-il pas commencer par décloisonner les compétences et prioriser la valeur des lieux ? La fonction freinage s'exerce sur des lieux dans lesquels les patrimoines naturels et culturels sont le plus souvent intimement liés. Monuments, sites et paysages dialoguent pour notre plus grand plaisir. Or, au niveau national, les compétences relatives à ces patrimoines sont de la responsabilité de ministères bien distincts. L'un en charge de l'environnement, pour faire court, dont les compétences sont majoritairement celles de l'ingénieur, et l'autre de la culture, dominée par des compétences de conservateur. Le cadre de vie des habitants n'est cependant pas fait de nature d'un côté et de culture de l'autre. Plus on s'éloigne du niveau national pour se rapprocher du local, du lieu, plus les domaines interfèrent et mettent en évidence une réalité territoriale complexe mais cohérente, perçue le plus souvent dans sa globalité. Cette sectorisation au plus haut niveau et les cloisonnements qui en découlent ne favorisent pas l'articulation des préoccupations environnementales et culturelles et nuit à la compréhension de l'intérêt d'une fonction patrimoniale unique. Les acteurs de l'aménagement de ces deux ministères ne devraient-ils pas ensemble mieux prendre en considération l'attachement des habitants comme des visiteurs à la valeur des lieux, être davantage à leur écoute, inventer de nouvelles méthodes d'élaboration des projets avec eux, de nouveaux processus d'aménagement. Ici ou là, des maires ou des professionnels de l'aménagement ont commencé à prendre en considération l'intérêt vital de cette fonction patrimoniale et dotent leur équipe de compétences pour l'activer. Je connais près de chez moi, ou dans mes fonctions au sein de l'association des petites cités de caractère, plusieurs équipes municipales qui ont obtenu des résultats remarquables. Mais je suis toujours étonné, pourquoi ne parle-t-on pas ou si peu de ces résultats ? Ne serait-il pas utile de les donner en exemple au niveau national, donner en exemple leur expérimentation transversale novatrice ? Alors, que conclure de ces propos ? Que faire pour engager une conduite durable de l'aménagement ? Force est de constater dans nos échanges quotidiens, dans notre littérature comme sur Internet, que nos territoires habités demeurent encore identifiés par l'image de leurs patrimoines locaux et par leur nom, souvent ancien, celui du lieu, de la ville, du quartier, de la cité, du bourg. Les patrimoines constituent le plus souvent des références pour reconnaître et valoriser un territoire, attirer de nouveaux habitants, voir de nouvelles entreprises et voir des tiers-lieux. Je reviendrai sur les tiers-lieux dans un prochain podcast intitulé précisément « Tiers-lieux et patrimoine ». Ils servent aussi à contraindre un aménagement disgracieux, même si parfois le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances. Dans le contexte actuel, la considération de la valeur culturelle d'un bâtiment, d'un lieu, d'une ville, d'un territoire est au service de l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Le mouvement engagé en faveur des patrimoines a pris une dimension sociale et sociétale, loin des préoccupations dogmatiques voire intégristes. Il permet de retrouver un équilibre salutaire par le jeu de fonctions régulatrices qu'il nous faut aujourd'hui apprendre à maîtriser. Il aide à renouer les fils du temps et contribue ainsi à répondre aux besoins sociaux et culturels du présent en évitant de compromettre ceux des générations futures. Éviter de compromettre ceux des générations futures, ça doit vous rappeler quelque chose. La considération de plus en plus importante des habitants pour leur patrimoine et des visiteurs pour celui des autres, qu'ils soient environnementaux ou culturels, doit conduire à mettre en valeur cette fonction ressource absolument essentielle pour une conduite durable de l'aménagement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. J'espère que vous n'avez pas trouvé les propos trop longs. N'hésitez pas à commenter ou questionner si vous en sentez l'envie ou le besoin. Alors, pour mémoire, je précise qu'une première écriture de cette réflexion a été publiée en avril-mai 2003 dans le numéro 465 de la revue Technique et Architecture. Je me souviens l'avoir rédigée à la demande de l'architecte Philippe Madec, Global Award for Sustainable Architecture, aujourd'hui initiateur du mouvement pour une frugalité heureuse, à suivre absolument sur Internet. La recherche que nous avions menée à l'époque était intitulée « Esthétique et qualité environnementale » et elle fut conduite pour le plan Urbanisme, Construction et Architecture, le PUCA. À bientôt donc pour la suite, deux nouveaux épisodes du podcast « Où donc habitez-vous ?». Les deux seront plus courts que celui-ci. Le premier, intitulé « L'anthropologue, le pape et le président », ira chercher des références à ses propos et se prolongera par un hommage à l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Le second, intitulé « Relancer le débat sur l'aménagement du territoire », portera sur une note de 1998, pour un groupe de travail interministériel sur le sujet, note à la rédaction de laquelle Françoise Chauet m'avait fait le grand honneur de participer. Merci, à bientôt.